réplique où commence et où finit le racisme, avec Marilyn Maezo et Norman Ajari. Comme l'écrit Martin Le Gros dans la préface à leur livre d'entretien « Où commence le racisme ?», les philosophes Marilyn Maezo et Norman Ajari appartiennent à la même génération, celle des attentats terroristes, de la montée de l'islamisme et de l'extrême droite, des débats autour du voile, mais aussi du retour des identités dans le débat public. Ils sont en outre d'accord sur ce constat. Le racisme revient comme une peste au sens d'Albert Camus. Je voudrais donc commencer par leur demander quels sont à leurs yeux les symptômes de cette maladie épidémique. Marilyn Maezo.
L'image de la peste est bien choisie, il me semble, pour traiter de ce sujet, parce que justement, à partir du moment où on file cette métaphore, on ne peut pas dire que le racisme revient, car ça implique qu'il aurait disparu à un moment donné. Ce que Rieu, le narrateur de la peste, dit dans le roman à la fin, c'est que la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. Et justement, ce qui est intéressant avec cette métaphore, c'est que la raison pour laquelle on pense que la peste peut disparaître puis revenir, donc ici le racisme, c'est qu'il y a des moments où elle est flagrante, où il y a des symptômes flagrants de la maladie et des moments où on ne voit rien. Mais ça n'est pas parce que les symptômes les plus flagrants peuvent venir à disparaître ou à s'amenuiser que ça veut dire que le mal, lui, disparaît aussi. Et c'est même tout le problème de ces épidémies, de ces maladies, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient métaphoriques, c'est que on est tellement habitué à ne repérer que certains symptômes spectaculaires que parfois, parce que notre vue baisse, parce que notre attention baisse, on n'est plus capable de percevoir que le mal est encore là. Alors concernant le racisme aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait une nouveauté en fait dans ces symptômes. Parmi les nombreuses choses qu'on pourrait citer, on peut remarquer qu'il y a une obsession maladive de l'identité, et en particulier l'identité assignée aux autres. On peut parler aussi de certains sujets qui tournent en boucle dans certains médias autour du danger que représente l'immigration. Pas le sujet simplement de l'immigration en général, mais le danger que les immigrés en général représenteraient pour le pays, à la fois sur le plan de la délinquance, mais aussi sur le plan potentiellement de l'atteinte qu'ils pourraient porter à la culture, à l'identité du pays. Tout ça, pour moi, ce sont des symptômes qui mettent en évidence ce mal.
Norman Ajari, quelle est votre analyse ?
Le symptôme, on peut dire, il se place sur le plan des représentations, c'est-à-dire sur le plan de certains discours, sur le plan de la manière dont se déploie un certain nombre de rhétoriques, comme par exemple celle du grand remplacement, comme par exemple cette notion, cette formule qui a été déployée il y a assez peu de temps par, je crois, un sénateur de droite, de régression aux origines ethniques de certaines personnes des quartiers qui ont participé à des émeutes récentes. Cela, c'est effectivement le plan du symptôme. Mais je crois que pour constater et pour examiner la maladie réelle, il faut voir le niveau des violences. Le niveau des violences, c'est celles qui ont, par exemple, déclenché les dites émeutes, c'est-à-dire, par exemple, une mise à mort. Par exemple, des situations de discrimination systématique au logement professionnel contre un certain nombre de populations. Cela, me semble-t-il, et effectivement, ce n'est peut-être pas un retour, ce n'est peut-être pas une nouveauté, le retour se fait peut-être au niveau symptomatique ou symptomal, c'est-à-dire au niveau de paroles, de violences verbales, d'expressions plus virulentes et plus débridées que jamais, mais l'expérience du racisme, l'expérience des populations de couleur, noires, arabes, notamment en France, cette expérience-là, je crois, présente une certaine continuité.
Bien. Alors, j'ai intitulé mon émission « Où commence et où finit le racisme ?» Donc, je voudrais voir dans quelles limites on peut le circonscrire et parler d'une décision du gouvernement qui est en train de faire débat, à savoir l'interdiction du port de l'abaya dans l'enseignement public. Je veux parler de ce sujet, bien sûr parce qu'il fait débat, mais aussi parce que cette interdiction a été qualifiée de raciste, notamment par les députés de la France insoumise. Une forme de racisme s'est développée vis-à-vis d'une religion, dit Éric Coquerel. Thomas Porte, plus virulent encore, vous crèverez la bouche ouverte de votre racisme rance. Et je me réfère au manifeste de présentation des indigènes de la République, dont vous avez été membre, je crois, Norman Ajari, discriminatoire, sexiste, raciste, la loi anti-foulard est une loi d'exception aux relents coloniaux. Et c'est sur cette loi que s'appuie le ministre de l'Éducation nationale. Il dira pas de nouvelle loi, mais interdiction des signes religieux ostensibles à l'école, l'abaya entre dans cette catégorie. Alors, sommes-nous là dans un cas de racisme avéré, Marilyn Maezo?
J'ai l'impression que le débat qui a émergé depuis l'annonce du ministre de l'interdiction de l'abaya est un petit peu le même que celui qui avait émergé au moment de la question de l'interdiction du voile. Simplement, dans ce cas, l'une des questions qui se pose, notamment du point de vue des enseignants, parce que c'est eux qui vont être chargés de faire appliquer cette nouvelle loi, c'est où poser le curseur, où poser la limite, par exemple, entre une abaya à proprement parler ou une robe un peu ample. Il y a même eu tout un jeu, il me semble, sur les réseaux sociaux qui a commencé à se mettre en place, abaya ou pas abaya, où on montrait des robes. Je crois que c'est pas Madame Duflo qui a mis sur son compte Twitter une photographie de robe en disant est-ce que ça vous l'interdiriez, et ensuite elle a dit perdu, c'est pas une abaya, c'est une robe de je ne sais plus quelle grande marque.
Une robe de luxe, oui.
Voilà, qui coûte 3 000 euros. Et bon, au-delà de cette...
Il y a une certaine mauvaise foi là-dedans, vous êtes d'accord? Parce que quand même, on a abaya, on sait ce que ça veut dire. Alors, je ne vais pas dire que c'est un tract vestimentaire, mais c'est un vêtement qui signe l'appartenance à l'islam.
L'abaya, à proprement parler, bien sûr. En revanche, là où ce qu'elle pointe du doigt peut effectivement être légitime, c'est la question du regard du professeur pour pouvoir savoir ce qu'est une abaya ou pas. Parce que de fait, au moment du voile, souvenez-vous, au moment de l'interdiction du voile, il y a eu tout un jeu autour des bandanas. C'est-à-dire qu'il y avait des élèves qui se présentaient, non pas avec un hijab, mais avec un bandana, où certains enseignants et membres du personnel des établissements ont demandé est-ce que le bandana, ça compte ou pas. Est-ce que là, on va avoir le même problème avec une robe qui serait un peu ample, mais dont l'élève affirmerait que c'est pas une abaya qu'elle a acheté dans tel magasin? Est-ce que ça va être au professeur d'arbitrer ça? Donc, je pense que là, effectivement, il peut y avoir un risque d'arbitraire, et le risque aussi de faire tomber sur les professeurs une responsabilité qui ne devrait pas être la leur.
Mais justement, Marilyn Maezo, le ministre a choisi de décharger les professeurs, oui, de la responsabilité dont, justement, les accablait un peu son prédécesseur,
oui, puisqu'il
interdit l'abaya comme on a interdit le voile islamique.
Oui, alors c'est ce que la loi est censée faire. C'était aussi ce que la loi sur l'interdiction du voile était censée faire, mais dans les faits, les professeurs se retrouvent face à des situations de tension où ils ne savent pas quoi faire. Et je voudrais juste insister là-dessus, parce que pour moi, c'est le point important. Comme pour l'histoire du voile, on insiste sur le vêtement, mais en réalité, il faut parler des situations concrètes que rencontrent les professeurs dans cette situation, où vous avez effectivement des élèves qui expriment par un discours une opposition à certains cours, une opposition à certaines règles. Et là, je pense que la loi défendant la laïcité est censée intervenir, mais on en parle moins.
Norman Ajari.
Je vais essayer d'éviter de rentrer dans ce débat sémantique, puisque ça me fait penser à une parole fameuse d'un juge de la Cour suprême aux États-Unis qui devait juger sur la pornographie face à la difficulté à définir explicitement ce que c'était que la pornographie. Le juge avait dit, bon, je sais pas le définir, mais quand je le vois, je sais ce que c'est. Donc visiblement, quand on voit une abaya, on est censé savoir ce que c'est. Dans tous les cas, je suis face à cette nouvelle décision aussi défavorable que je l'étais et que je le suis encore à la loi de 2004. Mais là, ça me semble encore plus difficile, compliqué, et même dans une certaine mesure absurde. On est vraiment dans cette situation où la laïcité ne résout que les problèmes qu'elle invente elle-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé que certaines tenues étaient, comment dire, une certaine attitude mentale était exprimée par une tenue, il faudrait faire une enquête pour pouvoir révéler à partir de cette apparence vestimentaire extérieure l'âme des personnes qui portent ces tenues, pour pouvoir faire en quelque sorte du vêtement une fenêtre vers une expression intérieure qu'on imagine inadmissible, qu'on imagine dangereuse, voire qu'on imagine terroriste. Cette manière de concevoir les choses ne me semble pas très probante. Et donc, je suis à la fois défavorable à cette interdiction, et en plus, je vois tous les problèmes que cela va causer, et là-dessus, je suis d'accord avec Marilyn Maeso, il me semble que la situation va être inextricable, et que c'est une manière, peut-être, de pousser les jeunes femmes à révéler davantage de chair, ce qui me semble une idée en soi assez étrange de la part d'une institution éducative.
Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, en vous citant Sylviane Agacinski, dans un livre récent, Face à une guerre sainte. Elle parle du voile, mais je pense que ça peut s'appliquer aussi à l'abaya. Elle dit « Le voilement est le marqueur d'un ordre religieux, familial et social dans lequel la femme n'a pas le statut d'une personne à part entière. » Elle ajoute un peu plus loin « Il s'agit bien moins de respecter la pudeur des femmes que de protéger les hommes de leurs propres désirs et donc de leur éviter la convoitise, par exemple des épouses d'un autre, mais de toute façon des femmes qu'ils ont sous les yeux. Et je citerai aussi Fethi Ben Slama dans son déclaration d'insoumission, l'oppression des femmes ne dégrade pas seulement la femme, mais organise dans l'ensemble de la société l'inégalité, la haine de l'altérité, la violence ordonnée par le pouvoir mâle. Et je m'autorise de ces réflexions en me référant à ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Femme, vie, liberté. On a là des femmes qui s'affirment elles-mêmes en se dévoilant, non pas en montrant leur chair, mais en disant « Nous avons le droit de nous habiller comme nous voulons, nous n'avons pas à nous cacher sous prétexte que nous sommes des femmes. » Je ne vois pas où est le racisme dans l'interdiction de la abaya. Il y a là une défense de la mixité qui est en effet une grande tradition française, mais qui peut aussi avoir, comme le montre le cas iranien, une portée universelle. Marilyn Maeso.
Je pense que là, il faut quand même préciser qu'on déplace le débat, ce qui n'est pas un problème. La manière dont on m'a posé la question au début, c'était par rapport à la laïcité, puisque l'interdiction de l'abaya est faite aujourd'hui, comme vous l'avez dit, en référence à la loi de 2004 qui portait sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires. Si vous me posez la question cette fois dans une perspective féministe, j'ai pas le même discours, puisque là je parle pas simplement en tant qu'enseignant qui peut être amené à faire appliquer cette loi en défense de la laïcité. Si je parle en tant que philosophe féministe, le symbole du hijab ou le symbole de ces vêtements qui sont eux-mêmes caractérisés comme étant pudiques, la mode pudique ou la mode modeste aussi, on dit modest fashion en anglais. Ça, c'est un objet que j'ai toujours critiqué, que je continue à critiquer, au même titre que je peux critiquer d'autres éléments vestimentaires ou autres, qui dans d'autres cultures ont aussi une fonction patriarcale, une fonction de discrimination, une fonction d'affichage de cette discrimination. Je pars du principe qu'effectivement, avoir une mode qui se dit pudique et qui cible particulièrement les femmes, c'est sous-entendre que le fait de dissimuler certaines parties du corps féminin serait nécessaire par pudeur, alors que ça ne serait pas pour les hommes. Ça, effectivement, ça pose un problème. La question, c'est est-ce que c'est cette question qui se pose avec cette nouvelle loi, lorsqu'on fait référence à la loi de 2004, qui est une loi sur la laïcité. Je dis pas que la question n'est pas pertinente, je dis juste que si on se place dans les perspectives de la loi de 2004, on peut pas faire valoir des arguments qui portent sur potentiellement une forme de discrimination ou autre.
Enfin, en tout cas, Clémentine Autain a dit à propos de cette décision, jusqu'où ira la police du vêtement Et il dit que la proposition de Gabriel Attal est symptomatique du rejet obsessionnel des musulmans. Mais parler de police du vêtement France, alors que c'est effectivement le cas, la police du vêtement, dans un certain nombre de pays islamiques, et notamment en Iran, ça me paraît un peu
gênant. Oui, non, mais là, ça
gênant.
Fait, ça fait partie de, si vous voulez, de la polémique de bas étage à laquelle s'adonnent quasiment tous les politiciens. Ça, c'est un vocable qui appartient justement au contexte iranien, notamment la police du vêtement. Il y a une vraie police du vêtement en Iran, ça n'est pas le cas en France. Et j'ai vu aussi, hein, dans cette veine-là, un certain nombre de politiciens qui faisaient le parallèle en disant, ben voilà, c'est la même chose, le voile, on l'interdit en France, on le rend obligatoire en Iran. Ça n'a strictement rien à voir. C'est des comparaisons qui sont, pardonnez mon vocabulaire, mais foireuse et indigne.
Non, Managari.
Cela ne me semble pas si absurde que cela, puisque, tout simplement, le désir que semblent exprimer les personnes qui manifestent en Iran pour, comment dire, l'assouplissement ou l'abrogation de ces lois, me semble lié à un désir de démocratie libérale. Tout simplement que les principes de neutralité, d'expression de soi, de protection des minorités qui sont au cœur de la démocratie libérale et des droits humains, soient appliqués. Et ce sont ces limites au principe de la démocratie libérale qui sont également, comment dire, brandies par les tenants de la spécificité culturelle de la laïcité française. Pour dire que ces principes de démocratie libérale, tout simplement tels qu'ils sont, appliqués par exemple dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis ou l'Écosse où j'enseigne aujourd'hui, où je vis et travaille et où ma fille est scolarisée, que de tels principes, donc les principes de la démocratie libérale qui veulent qu'il est tout à fait possible à la fois de travailler dans une institution publique ou à plus forte raison d'être usager du service public en portant par exemple des tenues à connotation religieuse ou des tenues comme la baïa qu'on pourrait qualifier plutôt de tenues traditionnelles, tout cela est autorisé. On pose des limites en France et on considère que c'est une très bonne chose, on s'en fait d'ailleurs une gloire, de poser des limites à la démocratie libérale, et je pense que ces deux types de désirs ou de revendications de davantage de liberté, que ces types de manières de souhaiter avoir moins de, avoir davantage de marge de manœuvre dans la présentation de soi dans l'espace public, que ce soit dans des institutions d'enseignement ou dans la rue, il me semble que ces deux choses-là ne sont pas absolument décorrélées. Bien entendu, l'intensité de la répression dans un cadre est bien plus intense que dans l'autre, mais nous avons tout de même, dans les deux cas, une restriction de cet idéal-là, une restriction des droits et de la possibilité d'agir des minorités.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'un peu spécieux à se réclamer des droits de l'homme pour justifier une pression communautaire ou une affirmation même communautariste, voire séparatiste. Parce que je vous rappelle aussi, c'est très intéressant, 2004, c'est en 2003 que Jacques Chirac a nommé une commission dirigée par Bernard Stasi parce que les proviseurs ne savaient plus à quel saint se vouer. Le Conseil d'État avait dit la laïcité ne s'applique pas aux élèves, seulement aux professeurs, et les élèves peuvent venir comme ils veulent, mais il faut pas qu'ils fassent de prosélytisme, il faut pas que ce soit trop ostensible. Et en fait, il y avait des tas de revendications, donc personne ne savait quoi faire, ils nomment une commission. La majorité des membres de cette commission, Bernard Stasi inclus, était a priori opposés à une loi. C'était une sensibilité soit libérale au sens que vous donnez, soit démocrate chrétienne. Et ce qui les a amenés à changer d'avis, c'est effectivement le témoignage des intervenants de terrain, et notamment de certaines jeunes filles qui disaient que, pour elles, c'était une forme de libération que de ne pas porter le voile à l'école, parce qu'elles vivaient sous la pression de leur communauté. Et c'est ça qui a remporté la décision et qui a donné lieu justement à cette interdiction des signes ostensibles. Et j'ajoute que les manifestations religieuses à l'école ne se bornait pas et ne se borne toujours pas à cela, parce qu'il y a, il faut aussi penser aux contestations des programmes. On dit ce programme-là ne me va pas, etc. Et dans le rapport Aubin, justement, il est dit: tout laisse à penser que dans certains quartiers, les élèves sont incités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d'abord être un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la cantine dans leur assiette, et qu'ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories religieuses du halal autorisé et du haram interdit. Donc c'est dans ce contexte-là aussi qu'intervient l'interdiction du voile et aujourd'hui l'interdiction de l'abaya. N'est-ce pas un peu naïf que de l'oublier et de se réclamer, pour justifier cet oubli, justement, des droits individuels? Norman Ajari.
Je ne crois pas à la mission civilisatrice de ces institutions, d'État. Je ne crois pas qu'ils fassent partie du rôle des institutions d'enseignement que de prétendre libérer par l'interdiction ou par la loi la condition des usagers du service public. Je pense que croire se donner cette mission, c'est une illusion. C'est s'illusionner soi-même sur ce que l'on fait, ou peut-être se donner des raisons de créer de nouvelles interdictions. Mais en tout cas, je ne crois absolument pas que ce soit la mission des collèges ou des lycées de libérer les jeunes femmes de leur propre famille, de l'image qu'on s'en fait, ce qui serait l'arriération de leur propre culture. Je ne crois pas du tout à ça. D'autant plus que je pense que ces communautés ne sont pas des communautés toutes d'un bloc. Les conflits sont internes à ces communautés. C'est-à-dire que les contradictions entre les personnes qui veulent porter ces vêtements, celles qui ne le veulent pas, sont internes à ces communautés-là. Et ce n'est pas, à mon sens, à l'État français de promouvoir un projet civilisationnel par la contrainte afin de favoriser, d'une manière ou d'une autre, l'altération de ces modes de vie qui sont absolument, absolument pacifistes, a priori. L'idée selon laquelle ces vêtements cacheraient des intentions violentes, terroristes, brutales, fait partie du problème. Ça fait partie, je dirais, de l'intériorisation d'une logique de guerre non conventionnelle qui, depuis le 11 septembre, est devenue un petit peu notre pain quotidien. L'idée selon laquelle il faudrait détecter les personnes radicalisées qui sont, comme des poissons dans l'eau, pour utiliser la vieille formule maoïste, dans nos quartiers, afin de pouvoir les isoler et de pouvoir les réprimer afin d'empêcher de potentielles attaques. Bien sûr, ces attaques existent, mais d'un point de vue statistique, l'intensité de la répression posée sur des personnes absolument pacifiques et qui sont qui ne présentent aucun risque, c'est absolument délirant. Si vous voulez, le delta entre le danger réel et la suspicion et les moyens sécuritaires, les moyens de détection mis en place sont absolument délirants. On demande finalement aux écoles de fonctionner comme la DGSI. C'est assez inquiétant.
Marilyn Maizeau.
Autant sur la suspicion que prennent certains, et notamment le danger de stigmatisation qu'il y a. Par exemple, quand certains disent que le voile, c'est presque le signe avant-coureur du terrorisme, là, on est d'accord qu'il y a quand même un gros problème avec ces discours et avec leur banalisation dans certains médias. En revanche, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit concernant les programmes et le rôle de l'école. Parce que la démocratie libérale a des idéaux nobles, il n'empêche que quand on est dans un pays qui a une éducation, un système scolaire public, l'école a un rôle, et ce rôle, c'est de donner à tous la même éducation. À partir de là, si on est dans des situations, et il y en a, je ne dis pas qu'elles sont généralisées, mais il y en a, des professeurs en ont témoigné, des situations où on ne peut pas offrir cette éducation à tous les élèves de manière égalitaire, parce que certains disent « moi, je ne veux pas avoir de cours d'éducation sexuelle ». Et là, je précise que ça ne stigmatise pas la communauté musulmane, parce qu'on a exactement les mêmes problèmes avec certains catholiques radicaux, qui expliquent que c'est de la pornographie, que l'éducation sexuelle n'a pas sa place à l'école, ça crée une inégalité. Ça voudrait dire que certains élèves peuvent y avoir accès et d'autres non. Or, on sait les ravages que ça peut avoir à l'absence d'éducation sexuelle en termes de problèmes de maladies sexuellement transmissibles, en termes de grossesse chez les adolescentes. Il y a beaucoup de risques en fait qui sont attachés à cette absence ou mauvais suivi de l'éducation sexuelle dans le cadre scolaire. Donc, je pense que c'est quand même important de rappeler ça. L'école a un rôle, et de ce point de vue-là, quand il se produit quelque chose dans le cadre scolaire qui l'empêche de remplir ce rôle, il est logique que l'État intervienne.
Il n'y a pas que l'éducation sexuelle, je cite encore...
C'est un exemple que je prenais.
Oui, le rapport Aubin, l'école face à l'obscurantisme religieux, les philosophes des Lumières, et surtout Voltaire et Rousseau, sont visés. Rousseau est contraire à ma religion, explique à son professeur... cet élève d'un lycée professionnel en quittant le cours. Molière et en particulier Tartuffe sont également des cibles de choix. Madame Bovary peut être jugée comme une œuvre libertine, et j'en passe. Mais là, je vais carrément aggraver mon cas à vos yeux. Mais vous aurez largement la possibilité de me répondre. Vous parlez d'une peste du racisme. Il me semble que notre époque se caractérise par l'extension démente du domaine du racisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, vouloir défendre les frontières, ça peut être jugé raciste parce qu'on fait la différence entre l'autochtone et l'étranger. François-Xavier Bellamy a été accusé par un grand journal de propager la rhétorique d'extrême droite parce qu'il rapportait que certains émeutiers avaient crié leur haine de la France et brûlé le drapeau tricolore. On peut parler de racisme quand on défend une certaine idée intransigeante de la laïcité, ou quand on s'inquiète devant les progrès du communautarisme, ou quand on manifeste, effectivement, la volonté de rester un peuple et une civilisation. Il me semble que cette volonté est légitime, mais on peut dire, bah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'accusation de racisme tombe extrêmement vite et nourrit la cancel culture. Edoui Plenel dit la liberté de parole est l'alibi de la libération du racisme dans son appel à la vigilance. Mais à ce moment-là, c'est à la liberté de parole qu'on s'en prend et la cancel culture vit de ça. Donc est-ce que ce problème ne doit pas être traité aussi. Norma Najari, pour commencer.
Je pense que si ce que vous appelez la volonté de rester un peuple ou une civilisation n'est pas immédiatement le racisme, elle en est en tout cas l'implacable condition de possibilité. C'est, je dirais, presque au niveau métaphysique, une manière de penser les choses, de penser la civilisation, qui me semble poser d'innombrables dangers. Tout d'abord, la réification de sa propre culture et de sa propre position, de sa propre histoire qu'elle implique. Dire « je veux rester ce que je suis », c'est d'ailleurs la devise du Luxembourg, c'est amusant, mais moi je trouve que c'est la pire devise qui puisse être, puisque vouloir rester ce que l'on est, ça suppose, je pense, fondamentalement, et je parle en tant que philosophe, ça suppose fondamentalement un manque de réflexivité. Ça manque un manque de l'examen de soi, qui est fondamental dès Platon. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça suppose de considérer que certaines caractéristiques qu'on aura choisies, qu'on aura sélectionnées, puisqu'évidemment, il n'y a d'autres cultures que celles qui sont passées par le crible de la sélection, suppose la création d'une sorte de code de conduite qui va décider de ce qui est bien conforme à notre tradition et ce qui ne l'est pas. Et cela, comment dire, me semble poser un certain nombre de problèmes à partir du moment où c'est réifié. Il y a, je crois, et encore une fois, c'est du Platon, je n'ai pas fait exprès, ça me vient comme ça, mais une différence depuis le Phèdre de Platon entre l'écriture, c'est-à-dire la conservation, et la mémoire. La conservation, c'est effectivement une culture réifiée, une culture qui est devenue presque mécanique, extérieure à nous-mêmes, et que l'on va conserver, c'est-à-dire que l'on va considérer presque de manière muséale comme existant en soi, et face à laquelle On va poser des murailles pour la défendre. Et cela, ce n'est sinon immédiatement le racisme, au moins la xénophobie. Et la mémoire, c'est au contraire le fait d'habiter existentiellement une culture, une forme de vie. Et ça, figurez-vous, je l'ai compris quand j'ai rencontré des personnes comme Jean Larzac. Et quand j'ai commencé à lire Jean Rouquette, c'est-à-dire des poètes et des intellectuels occitans. Et que j'ai vu que la manière dont ils concevaient leur propre culture, c'était cela. C'est-à-dire, c'était de faire vivre cette culture qui, pour le coup, et cette langue, et cette tradition intellectuelle qui, pour le coup, a été véritablement détruite, qui a été véritablement réduite à peau de chagrin, réduite à des ruines. Mais que c'est par la création, par la production intellectuelle et culturelle, et cela c'est quelque chose que déjà Césaire disait, n'est-ce pas, que c'est par le fait d'habiter vitalement, existentiellement, ces textes, cette production culturelle, qu'on la fait survivre. Mais non pas en la défendant comme une forteresse assiégée. Et donc, moi, je ne crois absolument pas au caractère bénéfique et au caractère vivable, désirable, d'une culture qui se baserait sur des fondations xénophobes.
Alors, xénophobe, je vous répondrai tout à l'heure. Marilyn Maizeau.
Ça me fait penser à cette discussion et ce que vient de dire Norman à un texte de Lévi-Strauss, d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé dans le livre, hein, une conférence qui s'intitule « Race et histoire », ou une autre qui s'intitule « Race et culture », où il explique en substance que c'est le propre de toute culture, en particulier face à une culture dominante, de vouloir se refermer sur elle-même pour se protéger. Et Lévi-Strauss ne voyait pas du racisme là-dedans, puisque lui considérait, et ça il le dit dans un autre texte, que pour qu'il y ait racisme, il faut qu'il y ait discrimination, hiérarchisation entre les différents groupes. Là-dessus, je ne le suis pas. Et je pense que l'avenir lui a donné tort, puisque il y a eu une sorte de mutation du racisme post-Seconde Guerre mondiale, qui se traduit par, non plus par des discours du type « il y a nous qui sommes supérieurs et vous qui êtes inférieurs », mais par des discours du type « il y a nous, il y a vous, on hiérarchise pas, mais il y a incompatibilité culturelle. Et donc, si vous essayez de venir chez moi, automatiquement, vous allez être soupçonné de pouvoir mettre en danger l'intégrité de ma culture. » Pour prendre un exemple concret de ça, il y a eu une polémique il y a quelques mois autour d'un député RN qui a crié pendant une discussion sur les migrants venant d'Afrique qu'il rentre en Afrique ou qu'il aurait dû rester en Afrique. Et il a expliqué, ça n'est pas du racisme, je dis juste qu'ils auraient dû rester chez eux, pas venir chez nous, la défense des frontières n'est pas raciste. Sauf que justement, c'est très malin de dire ça, mais quand vous regardez un petit peu les prises de position de ce député, vous vous rendez compte que par exemple, sur ses réseaux sociaux, il fait la distinction entre les migrants qui viennent d'Afrique et ceux qui viennent d'Europe, comme les Ukrainiens, en disant qu'il y a des migrants qui peuvent légitimement venir, ils ne sont pas des dangers, et les autres en bloc, encore une fois, on ne parle pas d'individus, on parle d'un grand bloc, eux qui représentent un danger en raison de leur pays d'origine. Là, je pense qu'effectivement, le racisme est assez flagrant.
Alors, vous parliez de xénophobie, Norman Ajari. Il y a une certaine idée de l'hospitalité qui a prévalu en France très longtemps et qu'on est en train de considérer comme xénophobe. C'était proposer à ceux qui arrivent, aux immigrés, de partager une littérature, une histoire, une langue, une culture. C'est ainsi que les choses se posaient. On a appelé ça assimilation, après intégration, et maintenant on voit la France qui se désintègre. Et en vous écoutant, j'ai pensé à cette réflexion d'Edgar Quinet, le véritable exil, ce n'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de ne rien reconnaître de ce qui le faisait aimer. Et c'est ce qui arrive dans certaines villes, dans certaines agglomérations, dans certaines banlieues. Voilà pourquoi ceux que Ouria Boutelja appelle les sous-chiens quittent le lieu où ils vivent, la banlieue pour la périphérie, comme dit Christophe Guilluy. Donc tout cela existe aussi, et encore une fois, je ne vois pas ce qu'on gagne à qualifier cette inquiétude de raciste. Peut-être, effectivement, doit-elle être surmontée, mais il n'y a rien en elle de coupable quant à ce qu'on appelait l'assimilation autrefois, j'y vois effectivement une forme haute d'hospitalité dans Managerie.
Je pense que cette culture dont vous déplorez, comment dire, le manque d'adoption par les nouveaux arrivants, est parfois plus maîtrisée par les dits nouveaux arrivants que par les autochtones.
Ça, c'est tout à fait juste.
C'est tout à fait juste. Je veux dire, le premier exil dont vous parlez, l'exil, le fait de ne plus reconnaître le monde dans lequel on vit et la culture à laquelle on appartient, à mon avis, ne commence pas par le fait d'y voir trop de visages qui ressemblent aux miens ou qui ressemblent à ceux d'une personne d'Afrique du Nord, mais commence par le fait d'avoir été privé d'héritage culturel. Et c'est cet héritage culturel qui permet également, comment dire, d'être peut-être moins sensible à la tentation de la xénophobie. Je pense que ça fait partie aussi du problème. C'est-à-dire, encore une fois, ce problème de la réification qui est appliqué, utilisé, mobilisé par les politiques, puisque c'est l'un des ingrédients toujours de base du discours d'extrême droite depuis le fascisme, comment dire, la fabrication de synthèse d'une espèce de culture qui française, qui italienne, qui allemande de synthèse, la fabrication d'une culture fasciste qui va remplacer la complexité, les contradictions, les oppositions, les subtilités qui font partie de tout héritage culturel qui est un espace de confrontation, d'opposition et de discussion. Et je pense que le fait d'adopter le type de culture française de synthèse telle que celle qui nous sont, comment dire, jetées au visage par le Rassemblement National ou par la formation politique d'Éric Zemmour, cela fait partie en tant que telle d'une forme de destruction culturelle, qui précède toutes les autres, d'une certaine façon.
Marlene Maizeau.
Là encore, j'aimerais parler de ce que j'ai pu voir en tant qu'enseignante auprès de certains élèves. Certains élèves le disent clairement, ne se sentent pas français. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait un effort suffisant d'assimilation ? Quand je leur pose les questions, je leur explique mais comment ça se fait. Ils m'expliquent qu'au quotidien, on leur renvoie le fait qu'ils ne sont pas vraiment tout à fait français. On les ramène à leur couleur de peau, on leur pose des questions déplacées en préjugeant de ce qu'ils vivent dans leur famille ou de ce qu'ils mangent ou de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas en raison de leur différence de couleur de peau. Donc, je ne pense pas que ce soit unilatéral, en fait. Il y a aussi ce problème-là. Il y a en particulier des jeunes qui voudraient se sentir intégrés et qui ne se sentent pas forcément intégrés parce qu'on les ramène systématiquement à ce qui fait qu'ils ne sont pas tout à fait comme les autres. Là où j'expliquais qu'il y a une pente glissante dans ce registre de « je ne reconnais plus ma France », énormément, je ne dis pas que c'est le cas de toutes, mais énormément de personnes qui tiennent ce discours-là sont les mêmes qui vont vous dire le matin quand je prends le RER, je regarde autour de moi, c'est pas la France. Qu'est-ce que vous pouvez constater en regardant autour de vous si ce n'est des visages, des couleurs de peau ? Si la simple vue de visages qui ne ressemblent pas suffisamment à votre goût, pour vous, est une source d'insécurité, il y a un problème fondamental de racisme. Et je dirais juste une dernière chose. Vous avez parlé d'accusation, vous avez employé le terme coupable. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de sortir un petit peu de ce registre-là aussi. Là, on est là en tant qu'intellectuel et en tant que chercheur. Quand on parle du racisme, on parle d'un objet, on essaye de le décrire, on essaye de le repérer. On n'est pas là en train d'essayer de pointer du doigt et de porter des accusations. On est en train d'essayer de décrire un phénomène, tout simplement.
Alors, continuons à essayer de décrire et parlons de l'islamophobie qui est, aux yeux de beaucoup, la forme actuelle du racisme. Et Enzo Traverso, dans La fin de la modernité juive, précise « L'islamophobie joue pour le nouveau racisme le rôle qui fut jadis celui de l'antisémitisme ». Êtes-vous d'accord avec Enzo Traverso, Norman Ajari ?
Je suis d'accord en partie seulement. Parce que je pense que l'antisémitisme continue de jouer un certain des rôles, une partie des rôles qu'il a joué auparavant, c'est-à-dire la place qui est d'ailleurs peut-être plus grande aujourd'hui qu'elle ne le fut au cours du dernier demi-siècle, le rôle central qu'elle occupe dans les théories du complot, comme une explication du monde, une explication causale du monde, pour, disons, tous les déboires que subit la France, les États-Unis, tous les pays où de telles théories se répandent. Je pense que, à ce niveau-là, l'antisémitisme est indéboulonnable, d'une certaine façon. La fonction qui a peut-être été reprise par l'islamophobie, c'est une certaine fonction d'exécration physique. Une fonction de désir d'identifier des individus qui nous ressemblent un petit peu, mais qui ne sont pas exactement comme nous, et qui, d'une certaine façon, tiennent une place de contaminant pour la culture majoritaire, qui la ternissent, qui l'envahissent peu à peu, qui la bâtardissent, et qui peuvent finir par la rendre méconnaissable, par finalement la détruire. Je pense que ça, c'est une fonction, effectivement, qui fut longtemps celle de l'antisémitisme et qui est désormais dévolue à l'islamophobie. Ce qui ne signifie pas que, si je puis dire, l'islamophobie casse et annule l'antisémitisme traditionnel.
De ce point de vue-là, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, Norman, dans le livre, à savoir les risques de faire justement des parallèles et des comparaisons un petit peu rapides. Là, en l'occurrence, le risque est pluriel. Premièrement, il y a le risque de nier la singularité de chacune des formes de racisme qu'on vient d'évoquer, que ce soit l'islamophobie, l'antisémitisme ou même la négrophobie dont on a aussi parlé. L'autre risque, c'est de créer une forme de concurrence victimaire qui existe, à savoir partir du principe que, et là je cite l'Union des Français Juifs pour la paix, j'espère ne pas avoir écorché le nom de ce groupe militant, qui dans son manifeste disait que l'antisémitisme est un racisme, mais qu'aujourd'hui, les principales victimes du racisme sont les musulmans. En créant des hiérarchies comme ça, en considérant que l'un a supplanté l'autre, on ne fait gagner personne, en fait. On se condamne à se rendre incapable de lutter contre les deux. On en avait déjà parlé en comparant justement l'antisémitisme et la négrophobie. Je pense que ça vaut aussi, dans son propre registre, dans la comparaison entre islamophobie et antisémitisme. Il y a une spécificité de l'antisémitisme qui est liée au pouvoir qu'on prête aux juifs. Tu parlais, Norman, de complotisme. Le juif, généralement, on l'accuse d'avoir trop, que ce soit d'argent, de pouvoir, d'influence. On l'accuse de tirer les ficelles en sous-main. Et donc, ça explique les formes particulières que prend l'antisémitisme. Avec l'islamophobie, il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place. Avec le racisme qui touche les musulmans, il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place. Donc moi, je serais plutôt pour qu'on analyse et on combatte chacun de ces racismes en lui gardant sa spécificité.
Bien, alors je vais vous faire là deux objections possibles. La première, en citant Salman Rushdie, un nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles, l'islamophobie. Critiquer la violence militante de cette religion dans son incarnation contemporaine est considéré comme du fanatisme et même du racisme. Alors, ça c'est sur le concept même d'islamophobie. Et puis d'autre part, faut bien constater aujourd'hui que l'antisémitisme en Europe n'est pas européen. Je pars de la Suède. Si Malmö est aujourd'hui, la troisième ville de Suède, une ville Judenfrei, c'est pas à cause des Suédois de souche. C'est lié à l'immigration. De même, l'antisémitisme est très répandu dans les quartiers. Ce que d'ailleurs, la France insoumise a parfaitement intégré. Donc la France insoumise, par électoralisme, adopte, ou disons, cautionne, ou minimise l'antisémitisme qui sévit dans les quartiers, parce qu'eux, ils croient au grand remplacement. Ils se disent, nous allons gagner la Seine-Saint-Denis, peut-être que la France va tenir comme la Seine-Saint-Denis, et comme ça, on va gagner les élections grâce au nouveau peuple. Et l'affaire Médine en est un témoignage. Médine est reçu comme un roi par la France insoumise et le rappeur Médine et par les écologistes. Il a fait la quenelle de Dieudonné. Il a assisté à des meetings de Kémy Séba, un noir qui se revendique comme tel et qui est d'un antisémitisme farouche. Et il a fait sur Rachel Kahn, je crois, un calembour aussi déplorable que le durafour crématoire de Jean-Marie Le Pen. Donc tout cela montre bien que mettre sur le même plan antisémitisme et islamophobie, ça ne va pas, Norman Ajari.
Bon, alors là, il y aurait beaucoup de choses à répondre. Malheureusement, je ne serais pas capable de répondre à tout. Juste premièrement, je pense que les gouvernements polonais et hongrois seront heureux d'apprendre qu'il n'y a pas d'antisémitisme, qu'il n'y a plus d'antisémitisme européen. À mon avis, ça les remplit de joie. Mais pour venir simplement à Médine, je pense que je suis très perplexe par rapport à toute cette situation, en tout cas à tout l'emballement que ça a causé. Je sais, Marilyn, que tu as écrit un texte. Malheureusement, il était payant, alors je ne l'ai pas lu, donc je sais pas, je connais pas ta position sur le sujet.
Je la connaîtrai
dans 5 minutes. Ça m'a laissé très perplexe puisque bon, il faut rappeler de quel jeu de mots il s'agit. Ça faisait référence au fait que Rachel Kahn a été poussée à la sortie d'un musée ou en tout cas d'une institution culturelle consacrée au rap et au hip-hop dont elle a fait partie de la direction, car les membres, les usagers estimaient que sa philosophie politique et ses prises de position étaient contraires aux traditions de cet art, ce qui, à mon avis, est exact. Et faisant référence à cela, Médine l'a qualifiée de rescanpé de cette institution, puisque bon, elle en a été exclue, jeu de mots avec son nom, Kahn, qui d'ailleurs je crois est aussi Kahn, le prénom du fils de Médine, étonnamment, bon, c'est un hasard, mais c'est aussi amusant à noter. Auparavant, la dite Rachel Kahn avait fait un message sur l'un de ses réseaux sociaux, faisant elle aussi un jeu de mots avec l'invitation de Médine par les Verts, un jeu de mots avec le recyclage des déchets. En gros, elle a traité Médine de déchets, ce qui n'a suscité absolument aucune réaction. Et c'est ça qui m'étonne considérablement. Et sur aussi la manière dont on conçoit et dont on considère, dont on analyse le racisme. C'est-à-dire que l'antiracisme politique qui s'est battu pendant une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, voire même plus si on regarde les choses à l'échelle globale et qu'on inclut, comment dire, l'histoire des discours et des réflexions anticoloniales, pour faire adopter, qu'on réfléchisse à une conception matérielle du racisme. Aujourd'hui, nous sommes véritablement obnubilés par la question de la représentation. Pour reprendre la métaphore du tout début de cette émission, obnubilés par le symptôme davantage que par le mal. La manière dont on attaque cette question de l'antisémitisme de Médine, c'est, disons, souvent une théorie de l'antisémitisme systémique qui est héritée d'un texte, plutôt un bon texte de Moishe Postone en 1980 qui a développé cette notion d'antisémitisme systémique, où il dit en gros, et je suis assez d'accord avec certaines de ses analyses, que cet antisémitisme circule comme un discours dans la société, qu'il procède par l'assimilation des juifs aux théories du complot et par une espèce de forme de pouvoir abstrait. Il a tout un rapport à l'abstraction, il en fait une théorie marxiste. Bon, passons, c'est pas très intéressant ici. Mais le problème, c'est que cette théorie de l'antisémitisme systémique fonctionne en miroir et sans doute comme une inspiration de la notion de racisme systémique telle qu'elle a été développée par le pouvoir noir. Mais la notion de racisme systémique, elle est facilement attestable. C'est-à-dire, on voit les discriminations, on voit la durée de vie des gens, on voit les échelles de pauvreté, de richesse, etc. Alors que pour attester cet antisémitisme systémique, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que ce qu'il a dit est véritablement juste? Est véritablement... Parfois, c'est évident. Parfois, évidemment, vous avez des cas où l'antisémitisme ne fait pas un pli. Mais là, où on est dans une situation où le fait de traiter un arabe de déchet ne pose absolument aucun problème, et le fait de faire un jeu de mots tendancieux où il est évident qu'il fait référence explicitement à un événement qui s'est passé récemment du CV de cette dame et nullement à la Shoah, cela est tout de même très problématique. Nous n'avons pas de véritables preuves, nous n'avons pas de manière d'attester sans l'ombre d'un doute que ces discours sont antisémites, alors que lorsqu'on parle traditionnellement de racisme systémique, ces attestations, nous les avons.
Alors, moi je ne parlerai jamais d'antisémitisme systémique, mais quand Ruya Boutelja, une des fondatrices des indigènes de la République, se fait photographier à côté d'un panneau où il est écrit « les sionistes au goulag », je parle d'antisémitisme. Bon, simplement, Marilyn Maizeau.
On va rester sur ce qui est attestable concernant Médine. Le tweet pour moi est secondaire. Ce qui est absolument attestable, c'est le fait qu'il a évolué pendant longtemps dans une sphère qui est la sphère soralo-dieudonienne et qu'il a mis très longtemps à s'en détacher explicitement. Je cite un truc en particulier, un débat qu'il a eu chez Mediapart en mai 2023, donc il y a quelques mois, où il réécrivait l'histoire du soralo-dieudonisme en expliquant que au départ la quenelle n'avait pas une signification antisémite et que c'est d'autres des récupérateurs qui sont venus coller une signification antisémite à ce geste et que Dieudonné a fini par l'avaliser. Il dit ça en 2023. Il faut savoir qu'entre-temps, outre ce qui a été cité sur son palmarès, il a aussi coécrit un livre avec Pascal Boniface où il défend Dieudonné, il défend le fait que Dieudonné fasse monter sur scène Faurisson, le négationniste Faurisson. Quelques années après, il avait attribué la quenelle d'or à Soral parce qu'il venait de faire une quenelle devant le mémorial de la Shoah. Donc, si vous voulez, c'est pas juste une instance ou un jeu de mots dont il est question. C'est une convergence de signaux assez explicites qui lui ont été reprochés. De ce point de vue-là, pour moi, Médine, il est assez représentatif de la gauche aujourd'hui dans son incapacité à percevoir l'antisémitisme. Je veux dire, encore il y a quelques jours, il a dit dans une interview que ça fait 20 ans qu'il combattait l'antisémitisme. Ça fait 20 ans, il défendait Dieudonné dans son livre coécrit avec Pascal Boniface. Donc s'il a changé maintenant, qu'il s'est rendu compte de son erreur, c'est très bien, mais il s'agirait de ne pas réécrire l'histoire et surtout d'essayer d'apprendre de cette erreur, d'essayer de comprendre comment ça se fait qu'en France, comme à l'époque de Soral et Dieudonné, on ait autant de mal à gauche à appeler l'antisémitisme par son nom.
Bien, écoutez, je suis malheureusement obligé de terminer cette émission maintenant et j'en suis d'autant plus désolé qu'il y a des sujets que nous n'avons pas pu aborder, notamment la négrophobie. Et ce que vous appelez le panafricanisme, Norman Ajari, c'est dommage, mais justement, je renvoie à votre livre « Où commence le racisme ? Désaccords et arguments ». Il est publié aux éditions Philosophie Magazine. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Nicolas Mathias. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Qui était Manouchian ?». Mes invités seront Annette Vivorka et Denis Péchanski. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.